Ô Jésus, l'orage de l'heure ne grondait pas. Le ciel était calme et serein. Je croyais, je sentais qu'il y a un ciel et que ce ciel est peuplé d'âmes qui me chérissent, qui me regardent comme leur enfant. Cette impression reste dans mon cœur, d'autant mieux que la vénérable mère, Anne de Jésus, m'avait été jusqu'alors absolument indifférente. Je n'avais jamais invoqué, sa pensée ne me venait à l'esprit qu'en entendant parler d'elle, ce qui était rare. Aussi, lorsque j'ai compris à quel point elle m'aimait, combien je lui étais peu indifférente, mon cœur s'est fondu d'amour et de reconnaissance, non seulement pour la sainte qui m'avait visitée, mais encore pour tous les bienheureux habitants du ciel. Oh mon bien-aimé, cette grâce n'était que le prélude de grâce plus grande dont tu voulais me combler. Laisse-moi mon unique amour te les rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui, le 6e anniversaire de notre union. Ah, pardonne-moi Jésus si je déraisonne en voulant redire mes désirs, mes espérances qui touchent à l'infini. Pardonne-moi et guéris mon âme en lui donnant ce qu'elle espère. Être son épouse, Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute ces trois privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin de désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsqu'à ma voix tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Mais là, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise, et je me sens la vocation de l'imiter, en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes, comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes, comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation du siècle. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Le martyr, voilà le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Pour me satisfaire, il les faudrait tous. Comme toi, mon époux adoré, je voudrais être flagellé et crucifié. Je voudrais mourir dépouillé comme saint Barthélemy, comme saint Jean. Je voudrais être plongé dans l'huile bouillante. Je voudrais subir tous les supplices infligés aux martyrs. Avec sainte Agnès et sainte Cécile, je voudrais présenter mon cou au glaive, et comme Jeanne d'Arc, ma sœur chérie, je voudrais le bûcher, murmurer ton nom, ô Jésus. En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient réservés. Jésus, Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudra emprunter ton livre de vie. Là sont apportées les actions de tous les saints, et ces actions, je voudrais les avoir accomplies pour toi. Ô Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins. Et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs, plus grands que l'univers. À l'oraison, mes désirs, me faisant souffrir un véritable martyr, j'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'ai lu dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc. Que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait, ainsi m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je me levais si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons plus parfaits. Je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnue dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée « Ô Jésus, mon amour !» Ma vocation, enfin, je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, mon Dieu, c'est toi qui me l'as donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Pourquoi parler d'une joie délirante? Non, cette expression n'est pas juste. C'est plutôt la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au port. Ô phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi, j'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible, cependant c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seulement agréées par le Dieu fort et puissant. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour, et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant, qu'il transforme en feu ce néant. Ô Jésus, je le sais, l'amour ne se paie que par l'amour. Ainsi j'ai cherché, j'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour. Employez les richesses qui rendent injustes à vous faire des amis, qui vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Voilà, Seigneur, le conseil que tu donnes à tes disciples, après leur avoir dit que les enfants des ténèbres sont les plus habiles dans leurs affaires que les enfants de lumière. Enfant de lumière, j'ai compris que mes désirs d'être tout, d'embrasser toutes les vocations étaient des richesses qui pourraient bien me rendre injuste. Alors je m'en suis servi à me faire des amis. Me souvenant de la prière d'Élisée à son père Élie, lorsqu'il osa lui demander son double esprit, je me suis présenté devant les anges et les saints, et je leur ai dit, je suis la plus petite des créatures, je connais ma misère et ma faiblesse, mais je sais aussi combien les cœurs nobles et généreux aiment à faire du bien. Je vous supplie donc, ô bienheureux habitants du ciel, je vous supplie de m'adopter pour enfant. À vous seul sera la gloire que vous me ferez acquérir. Mais daignez exaucer ma prière. Elle est téméraire, je le sais. Cependant, j'ose vous demander de m'obtenir votre double amour. Jésus, je ne puis approfondir ma demande. Je craindrais de me trouver accablée sous le poids de mes désirs audacieux. Mon excuse, c'est que je suis une enfant. Les enfants ne réfléchissent pas à la portée de leurs paroles. Cependant, leurs parents, lorsqu'ils sont placés sur le trône, qu'ils possèdent d'immenses trésors, n'hésitent pas à contenter les désirs des petits êtres qu'ils chérissent autant qu'eux-mêmes. Pour leur faire plaisir, ils font des folies, ils vont jusqu'à la faiblesse. Eh bien, moi, je suis l'enfant de l'Église, et l'Église est reine, puisqu'elle est ton épouse, ô divin roi des rois. Ce ne sont pas les richesses et la gloire, même la gloire du ciel, que réclame le cœur du petit enfant. La gloire, il comprend qu'elle appartient de droit à ses frères, les anges et les saints. Sa gloire à lui sera le reflet de celle qui jaillira du front de sa mère. Ce qu'il demande, c'est l'amour. Il ne sait plus qu'une chose, t'aimer, ô Jésus. Les œuvres éclatantes lui sont interdites. Il ne peut prêcher l'Évangile, verser son sang. Mais qu'importe, ses frères travaillent à sa place, et lui, petit enfant, il se tient tout près du trône du roi et de la reine. Il aime pour ses frères qui combattent. Mais comment témoignera-t-il son amour, puisque l'amour ne se prouve par les œuvres? Eh bien, le petit enfant jettera des fleurs, il embaumera de ses parfums le trône royal, il chantera de sa voix argentine le cantique de l'amour. Oui, mon bien-aimé, voilà comment se consumera ma vie. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Je veux souffrir par amour et même jouir par amour. Ainsi, je te jetterai des fleurs devant ton trône. Je n'en rencontrerai pas une sans les feuiller pour toi. Puis en jetant mes fleurs, je chanterai. Pourrait-on pleurer en faisant une aussi joyeuse action? Je chanterai même lorsqu'il me faudra cueillir mes fleurs au milieu des épines, et mon chant sera d'autant plus mélodieux que les épines seront longues et piquantes. Jésus, à quoi te serviront mes fleurs et mes chants? Ah, je le sais bien, cette pluie embaumée, ces pétales fragiles, et sans aucune valeur, ces chants d'amour du plus petit des cœurs te charmeront, oui, ces riens te feront plaisir, ils feront sourire l'Église triomphante. Elle recueillera mes fleurs effeuillées par l'amour, et les faisant passer par tes divines mains, ô Jésus, l'Église du ciel voulant jouer avec son petit enfant, jettera elle aussi ses fleurs, ayant acquis par ton attouchement divin une valeur infinie. Elle les jettera sur l'Église souffrante, afin d'en éteindre les flammes, elle les jettera sur l'Église combattante, afin de lui faire remporter la victoire. Ô mon Jésus, je t'aime, j'aime l'Église ma mère, je me souviens que le plus petit mouvement du pur amour, lui plus utile que toutes les routes, que toutes les autres œuvres réunies ensemble. Mais le plus pur amour est-il bien dans mon cœur? Les immenses désirs ne sont-ils pas un rêve, une folie? Ah, s'il en est ainsi, Jésus, éclaire-moi, tu le sais, je cherche la vérité. Si mes désirs sont téméraires, fais-les disparaître, car mes désirs sont pour toi le plus grand des martyrs. Cependant, je le sens, Jésus, après avoir aspiré vers les régions les plus élevées de l'amour. S'il me faut ne pas les atteindre un jour, j'aurai goûté plus de douceur dans mon martyr, dans ma folie, que je n'en goûterai au sein des joies de la patrie. À moins que par un miracle, tu ne m'enlèves le souvenir de mes espérances terrestres. Alors laisse-moi jouir pendant mon exil des délices de l'amour. Laisse-moi savourer les douces amertumes de mon martyr. Jésus, Jésus, s'il est si délicieux le désir de t'aimer, qu'est-ce donc de posséder, de jouir de l'amour? Comment une âme aussi imparfaite que la mienne peut-elle aspirer à posséder la plénitude de l'amour? Ô Jésus, mon premier, mon seul ami, toi que j'aime uniquement, dis-moi quel est ce mystère. Pourquoi ne réserves-tu pas ces immenses aspirations aux grandes âmes, aux aigles qui planent dans les hauteurs? Moi, je me considère comme un faible petit oiseau, couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur. Car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles, ses frères, qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Trinité Sainte. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes, mais s'envoler, cela n'est pas dans son petit pouvoir. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin, se voyant aussi impuissant? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un seul instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Jésus, jusqu'à présent, je comprends ton amour pour le petit oiseau, puisqu'il ne s'éloigne pas de toi. Mais je le sais, tu le sais aussi souvent, l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, c'est-à-dire sous les rayons du soleil, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine à droite et à gauche, court après un petit ver, puis rencontrant une petite flaque d'eau. Elle mouille ses plumes à peine formées. Elle voit une fleur qui lui plaît, alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Enfin, ne pouvant planer comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Cependant, après tous ses méfaits, au lieu d'aller se cacher dans un coin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau tourne vers son bien-aimé soleil. Il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées. Il gémit comme l'hirondelle, et dans son doux chant, il confie. Il raconte en détail ses infidélités, pensant dans son téméraire abandon acquérir ainsi plus d'empire, attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes mains, les justes mais les pécheurs. Si l'astre doré demeure sourd au gazouillement plaintif de sa petite créature, s'il reste voilé, eh bien, la petite créature reste mouillée. Elle accepte d'être transie deux fois et se réjouit encore de cette souffrance qu'elle a cependant méritée. Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit, que deviendrait-il s'il était grand? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence, de sommeiller devant toi. Oui, c'est là encore une faiblesse du petit oiseau lorsqu'il veut fixer les divins soleils et que les nuages l'empêchent de voir un seul rayon. Malgré lui, ses petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous la petite aile et le pauvre petit être s'endort, croyant toujours fixer son astre chéri. À son réveil, il ne se désole pas, son petit cœur reste en paix, il recommence son office d'amour, il invoque les anges et les saints qui s'élèvent comme des aigles vers le foyer des vents, objet de son envie. Et les aigles, prenant en pitié leur petit frère, le protègent, le défendent et mettent en fuite les vautours qui voudraient le dévorer. Les vautours, image des démons, le petit oiseau ne les craint pas. Il n'est pas destiné à devenir leur proie, mais celle de l'aigle, qu'il contemple au centre du soleil d'amour. Ô Verbe divin, c'est toi l'aigle, adoré que j'aime et qui m'attire, c'est toi qui t'élançant vers la terre d'exil, a voulu souffrir et mourir afin d'attirer les âmes jusqu'au sein de l'éternel foyer de la Trinité bienheureuse. C'est toi qui remontant vers l'inaccessible lumière, qui sera désormais ton séjour. C'est toi qui restes encore dans la vallée des larmes, caché sous l'apparence d'une blanche hostie. Aigle éternel, tu veux me nourrir de ta divine substance, moi, pauvre petit être, qui rentrerai dans les néants si ton divin regard ne me donnait la vie à chaque instant. Ô Jésus, laisse-moi dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu, dans cette folie, que mon cœur ne s'élance pas vers toi? Comment ma confiance serait-elle des bornes? Ah, pour toi, je le sais, les saints ont fait aussi des folies. Ils ont fait de grandes choses, puisqu'ils étaient des aigles. Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses, et ma folie à moi, c'est d'espérer que ton amour m'accepte comme victime. Ma folie consiste à supplier les aigles, mes frères, de m'obtenir la faveur de voler vers le soleil de l'amour, avec les propres aigles de l'aigle divin. Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon bien-aimé, ton petit oiseau restera sans force et sans ailes. Toujours il demeurera les yeux fixés sur toi. Il veut être fasciné par ton regard divin. Il veut devenir la proie de ton amour. Un jour, j'en ai l'espoir, aigle adoré. Tu viendras chercher ton petit oiseau et remontant avec lui au foyer de l'amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert en victime. Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable? Je sens que si par impossible, tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Mais pourquoi désirer et communiquer tes secrets d'amour, Jésus? N'est-ce pas toi seul qui me les a enseignés? Et ne peux-tu pas les révéler à d'autres? Oui, je le sais, je te conjure de le faire. Je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. La toute petite Sainte Thérèse, Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face du Carmel. Épilogue. Offrande à l'amour miséricordieux. Introduction. L'offrande de Thérèse à l'amour miséricordieux du 9 juin 1995 a résonné intensément, nous l'avons vu, dans le manuscrit M adressé à Marie, Sœur Marie du Sacré-Cœur, qui, à la suite de Sainte Thérèse, s'était offerte elle aussi. Mais le disciple ne comprend pas aussi bien que le maître. Thérèse le constatera bientôt. La Sœur Marie est émue par la réponse de Thérèse, page brûlante d'amour pour Jésus, véritable écho du cœur de Dieu, où sa filleule, possédée par le bon Dieu, a dévoilé les secrets de son âme. Mais elle confesse la sourde peine qui l'attriste, la crainte de ne pas pouvoir aimer Jésus comme vous, se désolant de ne pas avoir les désirs impétueux de sa sœur. Marie se méprend sur l'essentiel du message, qui est la confiance éperdue dans la miséricorde de Jésus. Comme le jeune homme de l'Évangile, à vous Marie, un certain sentiment de tristesse m'a saisi devant vos désirs extraordinaires du martyr. Voilà bien la preuve de votre amour. Oui, vous le possédez, l'amour, et moi, non, jamais, vous ne me ferez croire que je puis atteindre ce but désiré. Car je redoute tout ce que vous aimez. Je voudrais bien que vous disiez par écrit votre petite marraine, si elle peut aimer Jésus comme vous, mais deux mots seulement. 1. Pourquoi on s'offre à l'amour miséricordieux? L'indulgente Thérèse va réagir dans sa lettre du 17 septembre 1996, s'ingéniant à formuler toujours mieux la quintessence de sa petite voix d'espérance et le pourquoi de leur offrande commune. Tellement associée au manuscrit M, cette lettre constitue une des pages les plus fortes et audacieuses que la sainte nous a léguées. Elle ne figurera que dans l'histoire d'une âme de 98, mais sera ajoutée l'année suivante, parmi les textes en appendice. Nous en relèverons les principaux passages et constituent du même coup une excellente introduction à la lecture de l'offrande à l'amour miséricordieux. D'abord, avec une cordiale franchise fraternelle, Thérèse exprime son étonnement. « Comment pouvez-vous me demander s'il vous est possible d'aimer le bon Dieu comme je l'aime? Si vous aviez compris l'histoire de mon petit oiseau, vous ne me feriez pas cette question. Mes désirs du martyr ne sont rien, ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens dans mon cœur. » Ces désirs sont une consolation, argumente Thérèse, mais non la véritable marque de mon amour. Et de revenir à ces certitudes irréversibles, relatives au cœur miséricordieux de Dieu, et la joie qu'ils ressentent devant notre conscience. Ah, je sens bien qu'il n'est pas cela du tout qui plaît à Dieu au bout. Ah, je sens bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor, ma reine chérie. Pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre? Thérèse se met presque à supplier sa sœur de croire à l'incroyable amour du Seigneur. « Oh, ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite fille. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour, consumant et transformant. » Thérèse veut dire, sans désir, sentit une vertu brillante. Évidemment, elle n'élimine pas le désir d'être, même de la sainteté, et tout ce que cela suppose de pauvreté spirituelle, faite d'humilité et de confiance. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà le difficile. Car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver? Il faut le chercher bien loin, a dit le psalmiste. Il ne dit pas qu'il faut le chercher parmi les grandes âmes, mais bien loin, c'est-à-dire dans la bassesse, dans le néant. Ah, restons donc bien loin de tout ce qui brille. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Alors nous serons pauvres d'esprit, et Jésus viendra nous chercher si loin que nous soyons et nous transformera en flammes d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. La crainte ne conduit-elle pas à la justice sévère, telle qu'on la représente aux pécheurs? Mais ce n'est pas de cette justice que Jésus aura pour ceux qu'il aime, puisque nous voyons la voie courant ensemble. Oui, je le sens, Jésus veut nous faire les mêmes grâces, il veut nous donner gratuitement son ciel. Oh, ma petite sœur chérie, si vous ne me comprenez pas, c'est que vous êtes une trop grande âme. Ou plutôt, c'est que je m'explique mal, car je suis sûre que le bon Dieu ne vous donnerait pas le désir d'être possédé de lui, de son amour miséricordieux, s'il ne vous réservait cette faveur. Plutôt, il vous l'a déjà faite, puisque vous vous êtes livré à lui, puisque vous désirez être consumé par lui, et que jamais le bon Dieu ne donne de désir qu'il ne puisse réaliser. De le texte de l'offrande, essentiel à l'amour d'une âme. Quant au texte de l'offrande à l'amour miséricordieux, il figure bien sûr dans l'histoire d'une âme, dès la toute première édition. Un appendice, il est vrai, mais toujours dans la première section, la biographie proprement dite, ma Agnès s'y réfère explicitement. Quoi qu'il en soit de sa place originale, le texte de l'offrande appartient historiquement et essentiellement à l'ensemble de l'histoire d'une âme. Il ne peut en être écarté. Et ceci d'autant plus dans la vision spirituelle de Thérèse, l'ouverture totale à l'amour miséricordieux est l'unique expérience du chercheur de Dieu. On ne conquiert pas Dieu, il se donne. Devant lui, on aura toujours les mains vides. Dieu seul peut nous donner Dieu. Dans l'ardente supplication finale du manuscrit M, Thérèse proposa l'abandon avec une entière confiance à la divine miséricorde infinie, comme la porte donnant accès aux grâces les plus grandes. Mais peu importe la forme que prend notre don de confiance entière, de porte, il n'y en a qu'une seule. 3. Je ne me rends pas de m'être livré. Oh non. C'est par cette porte que Thérèse continue de s'approcher de Dieu jusqu'à sa mort. Un an après ses premières hémoptysées, du vendredi 196, Thérèse doit se rendre à la dure évidence de la maladie et accepter d'être peu à peu déchargée de ses emplois, souvent aussi de l'office liturgique en commun et des récréations. Elle est de plus en plus épuisée, a souvent de la fièvre. En juin, elle rédige le manuscrit G pour Mère Marie de Gonzague. Le 6 juillet, les hémoptysies reprennent quasi quotidiennement jusqu'au 5 août. Le 8 juillet, elle quitte sa cellule et est descendue à l'infirmerie. Le 30, elle reçoit l'extrême onction, sacrement des malades. Et le 19 août, elle communie pour la dernière fois. Mais son âme communie sans cesse. À Dieu et à toute l'Église, martyre dans son corps et dans son âme par l'épreuve intérieure qui la tenaille, Thérèse vit son martyre d'amour. Elle regarde souvent le crucifié. La plus belle mort d'amour, dit-elle. Dans son offrande, elle a demandé « Que je devienne martyre de votre amour, ô mon Dieu. » Elle témoigne bien souvent « Quand je le puis, je répète mon offrande à l'amour. Chaque battement de son cœur veut être un acte d'amour. Tout ce que je le fais, les mouvements, les regards, tout depuis mon offrande, c'est par amour. » La tuberculose poursuit son œuvre de destruction. On se demande comment Thérèse peut rester en vie. On la plaint, c'est affreux. « Non, répondit-elle, ça n'est pas affreux. Une petite victime d'amour ne veut pas trouver un affreux ce que son époux lui envoie par amour. » C'était le 25 septembre. Elle résistera encore 5 longues nuits et 5 longues journées. Le 30 septembre 97, elle vit son dernier jour, écoutant ses paroles de l'après-midi telles que Mère Agnès a pu les consigner. « Oui, il me semble que je n'ai jamais cherché que la vérité. Oui, j'ai compris l'humilité du cœur. Il me semble que je suis humble. » Tout ce que j'ai écrit sur mes désirs de souffrance, oh, c'est quand même bien vrai. Je ne me repens pas de m'être livrée à l'amour, oh non, je ne m'en repens pas, au contraire. Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de t'en souffrir, jamais, jamais. Je ne puis expliquer cela que par les désirs ardents que j'ai eus de sauver des âmes. Ma mère, n'est-ce pas encore l'agonie? Ne vais-je pas mourir? Oh, je ne voudrais pas moins longtemps souffrir. Quelques minutes après, 7 heures du soir, en regardant son crucifix, elle prononce ses tout derniers mots. Oh, je l'aime. Mon Dieu, je vous aime. Offrande à l'amour miséricordieux. offrande de moi-même comme victime de l'Holocauste à l'amour miséricordieux du monde. Miséricordieux du bon Dieu. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer, travailler à la glorification de la Sainte Église, en sauvant les âmes qui sont sur la terre, et délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté, et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte. Mais je sens mon impuissance, et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Parce que vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique, pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ces mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur. Vous suppliant de ne regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle, nous a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs, je le sais, ô mon Dieu. Plus vous voulez donner, plus vous vous faites désirer. Je sens mon cœur de désir immense, et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je n'ai pu recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi comme au tabernacle, ne vous les éloignez jamais de votre petite hostie. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants, et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections comme le feu qui transforme toutes choses en lui-même. Je vous remercie, mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix, puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse. J'espère aussi à vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie. Mais je ne veux pas amasser de mérites pour le ciel, je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de vous consoler, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous, les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien, un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous. Afin de vivre dans un acte d'un parfait amour, je m'offre comme victime de l'Holocauste à votre amour miséricordieux. Vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont refermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Marie-Françoise, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Fête de la Sainte Trinité le 9 juin de l'an de grâce 95.